invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans l'Évangile selon Jean. Nous allons contempler le chapitre 4 et Dieu voulant du verset 39 jusqu'au verset 54. Et je voudrais vous parler de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Je sais que ça, c'est un titre qui est mal compris aujourd'hui par plusieurs, parce que quand ils entendent cette déclaration de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, ils prennent ça dans un sens universaliste, c'est-à-dire d'autres imaginent que, en fin de compte, tous les pécheurs du monde seront sauvés. Mais est-ce que c'est ça le sens de cette phrase, ce titre de Christ, le Sauveur du monde? Il y en a aussi qui disent que oui, il est venu dans le monde avec l'intention de sauver tous les êtres humains, mais en fin de compte, c'est pas tous les êtres humains qui seront sauvés. Et cela met l'accent sur la nécessité de l'homme d'exercer sa volonté, mais en réalité, pour eux, Christ est tout de même le Sauveur du monde. Donc, nous devons regarder ensemble ce titre, cette expression, surtout utilisée par la femme samaritaine que le Seigneur Jésus a rencontrée, mais aussi ceux de son village qui sont venus voir le Christ. Et cela, nous voyons dans Jean chapitre 4, à partir du verset 39 à 42. Je voudrais d'abord regarder ces versets ensemble avant de continuer sur le reste du chapitre. Et c'est écrit dans Jean 4 et le verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Et voici sa déclaration. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. En beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Alors voilà d'où je tire le titre de cette étude, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Alors, comment est-ce que nous devons comprendre cette expression? Parce que c'est biblique. Et donc, nous ne devons pas essayer de côtoyer cette phrase simplement parce que nous voyons que la Bible enseigne que le Seigneur Jésus est venu dans le monde pour sauver un peuple élu. Ça, c'est très clair dans plusieurs parties de la Bible, d'ailleurs partout, comme dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 3, où nous lisons « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il n'y a aucune bénédiction spirituelle qui ne viennent de Christ et de la volonté du Père qui est au ciel. Et voilà comment la Bible décrit ces bénédictions spirituelles, verset 4, Éphésiens 1. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus, notez, avant la fondation du monde. Donc nous savons que Dieu n'est pas en train de regarder pour voir qui va croire d'abord en son fils et ensuite, maintenant, choisir de tels pécheurs. Non. Ici, c'est écrit, cette élection a eu lieu avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà encore. La sainteté et cette justification devant Dieu est le résultat d'avoir été élu en Christ avant la fondation du monde. Ce n'est pas que Dieu regarde d'abord qui est saint et irrépréhensible et alors maintenant le choisit, non. Le fait d'être considéré saint, comme nous allons voir dans la suite de ces versets, c'est d'être en Christ et d'avoir le Seigneur Jésus mourir à notre égard, ayant été élu avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi le verset 5 dit cela, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Mais notez bien, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà ce qui est la source du salut, c'est la volonté de Dieu, non pas la volonté de l'homme. Laissé à lui-même, l'homme ne pouvait jamais croire en Christ. Tel est l'état de rébellion et d'incrédulité et de la corruption de son cœur. Mais selon le bon plaisir de sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, et c'est écrit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc toujours cette grâce, cette bénédiction se trouve en son bien-aimé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Et verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alors, sachant cela, comment est-ce que nous pouvons comprendre cette déclaration alors de ces Samaritains qui ont entendu le témoignage de cette femme samaritaine, mais en venant et en écoutant le Seigneur lui-même, maintenant déclare, nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je dois dire premièrement qu'il n'y a pas de conflit entre les versets de la Bible. Je sais que certains aiment prendre la Bible et faire le débat pour dire, ah, voilà ce que ce verset-ci dit et puis voilà ce que l'autre dit. Mais il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. C'est à nous, par la grâce de Dieu et son esprit, de voir le contexte de chaque verset et comprendre ça dans le plus grand contexte de la gloire de Dieu. Parce que Dieu lui-même ne peut pas se contredire. Alors, premièrement, je dirais le sauveur du monde. Cela signifie un monde ethnique. Il est le sauveur non seulement des Juifs, mais comme nous voyons dans le contexte des Samaritains. D'ailleurs, quand les disciples sont partis chercher de quoi manger et sont revenus, comme nous avons déjà étudié ça dans la première partie de ce chapitre, et les Juifs sont revenus, ils étaient étonnés du fait que le Seigneur Jésus parlait avec une femme samaritaine. D'abord, même la femme samaritaine était étonnée. Comment elle lui a posé la question, est-ce que toi, étant un juif, ça c'est dans le verset 9, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Et c'est écrit, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Alors, il y avait cette séparation entre ceux qui étaient juifs et ceux qui étaient les samaritains, quoiqu'ils habitaient le même pays, mais les samaritains étaient considérés comme une race mixte à cause de leur histoire. Quand les Assyriens sont venus selon la volonté de Dieu et prendre 10 tribus du nord en captivité, les Assyriens se sont entremariés avec ceux qui étaient des Juifs à cette époque. Et voilà maintenant cette race de Samaritains qui est née, une race mixte. Donc pour les Juifs, ils ne considéraient pas ces Samaritains comme étant d'une racine pure. C'est intéressant combien la race divise les cultures et divise le monde. Donc il y avait déjà ces préjugés existants. Pourtant, pour Christ, ce n'est pas pour lui un problème. Pourquoi? Parce qu'il est le sauveur du monde. Voilà. Il est venu pour sauver des pécheurs de toute race et de toute langue dans le monde entier. Et il n'y a pas de frontière en ce qui concerne la grâce de Dieu et la volonté de Dieu de sauver des pécheurs. C'est-à-dire, Dieu n'a pas favorisé une race au-dessus de l'autre. Mais comme nous lisons ailleurs dans les Écritures, par exemple dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, il y a le cantique qui est chanté au ciel par les élus de Dieu. Et c'est écrit dans le verset 9 d'Apocalypse 5. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, notez, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » C'est-à-dire, ceux qui sont encore vivants dans ce monde règnent maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ, ayant été fait par lui et son œuvre à la croix un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'un autre médiateur entre nous et Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, et nous nous approchons de lui, quelle que soit la race. Donc, voilà la signification de cette déclaration de ces Samaritains. Et imaginons les disciples qui hésitaient même à traverser la Samarie, que maintenant, le Seigneur Jésus avait là un de ses élus, pour qui, c'est écrit dans Jean 4, 4, il fallait qu'il passât par la Samarie, et non seulement passer, mais comme nous avons lu ici dans le verset 40, quand les Samaritains l'ont prié de rester auprès d'eux, il n'a pas hésité, c'est écrit, il resta là 2 jours. Imaginez, les disciples, en voyant cela et en habitant là pendant 2 jours, quoique leur attitude était qu'il devait avoir une séparation entre eux et les Samaritains. Mais c'est de cette manière que Christ, par sa grâce, fait tomber ses préjugés et unit en lui-même des pécheurs de partout dans le monde. Et pour cela, il est appelé le sauveur du monde. C'est une expression que nous voyons ailleurs, par exemple dans la première épître de Jean et le chapitre 4 et le verset 14. Donc, une expression qui est utilisée plusieurs fois dans la Bible. Ici, nous voyons dans le verset 14 « Et nous, 1 Jean 4, 14, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Voilà encore, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui interprètent cela en disant, ah voilà, cela veut dire que quand Christ est venu, il est venu voulant chercher tous les pécheurs du monde entier, tous les individus. Mais si tel était le cas, on doit dire que Christ alors a fait échec dans sa mission, parce qu'il est venu voulant chercher et sauver tous les individus du monde entier, pourtant tous les individus du monde entier ne sont pas sauvés. Alors qu'est-ce que cela a dit concernant Christ et son pouvoir de sauver? Et je sais ce que les gens disent. Ils disent non, mais c'est parce que Christ se limite de sauver seulement ceux qui veulent être sauvés, quoiqu'il a donné sa vie pour eux tous. Mais vous ne voyez pas la faute dans cette manière de raisonner? Cela veut dire que la volonté de Dieu est maintenant soumise à la volonté de l'homme? Loin de là. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Donc, au lieu de comprendre cela dans le sens que Christ est le sauveur du monde, de tous les hommes, sans exception, voilà comment la plupart interprètent cela, mais nous devons comprendre ça, que Christ est le sauveur du monde sans distinction. Cela veut dire qu'il ne distingue pas entre ce pécheur-ci ou ce pécheur-là afin de le sauver, quelle que soit sa race, sa culture, sa langue, sa tribu. Non. Tout est selon le plan éternel de Dieu, comme nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1 et les versets 3 à 7. Aussi dans 1 Timothée chapitre 4, parce que ce sont des versets que les gens aiment utiliser pour contredire la vérité de l'élection de la grâce souveraine de Dieu. Et nous ne devons pas avoir peur de ces versets pour côtoyer ces versets comme eux, ils côtoient beaucoup de versets de la Bible qui enseignent clairement que le salut est selon la grâce éternelle de Dieu seul et que c'est Dieu qui fait le choix. Alors, que signifie cela ici dans 1 Timothée chapitre 4, par exemple, où nous lisons, nous travaillons, verset 10, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Notez, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Dans l'original, ce mot principalement peut être aussi traduit c'est-à-dire. Donc, la dernière partie explique la première partie. Quand il dit qui est le sauveur de tous les hommes, il faut lire cela, c'est-à-dire des croyants du monde entier. Et qui sont les croyants, si ce n'est ceux que le Père lui-même a donné à Christ et par son esprit, maintenant il attire à Christ, il leur donne la foi. La foi est le don de Dieu. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il est le sauveur de tous les hommes, c'est-à-dire des croyants. On aperçoit par la foi que l'Esprit donne qui sont ceux pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Et c'est pour cela que Christ est mort. Donc, cette expression « le sauveur du monde » ne contredit pas la vérité que il y a un peuple élu depuis l'éternité que le Père a donné à son Fils et pour qui Christ est venu. Mais c'est pour les hommes, les pécheurs sans distinction du monde. C'est pour ça qu'il est appelé le sauveur du monde. Il y a un autre passage que nous devons comprendre parce qu'il y a beaucoup qui prennent ce passage aussi pour dire que Dieu a une volonté, un désir de sauver tous les êtres du monde entier, c'est-à-dire sans exception. Et encore, je dis, si telle est l'interprétation, donc cela signifie que Dieu n'a pas le pouvoir d'achever ce qu'il a destiné, ce qu'il a désiré. Non, impossible. Tout ce que Dieu veut, il achève. Et donc ici, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 2, il faut comprendre ces versets dans le contexte. Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, notez, pour tous les hommes. Donc, il y a certains qui encore vont dire, ah voilà, tous les hommes sans exception. D'ailleurs, je dirais que si tel était le cas, cela serait pour nous une impossibilité. Je me demande si nous connaissons même tous les noms de ceux qui sont nos voisins d'abord. Commençons là. Et puis, imaginons dans la ville où nous habitons, est-ce que nous savons qui sont tous les hommes pour qui nous devons prier? Si c'était tous les hommes sans exception, je dirais déjà, c'est un devoir impossible. Mais deuxièmement, je dirais que même Christ lui-même n'a pas prié pour tous les hommes sans exception. Parce que dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17 et le verset 9, Christ fait une distinction. Il dit, je ne prie pas pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Donc, Christ lui-même n'a pas prié pour tous les hommes sans exception. Alors, nous devons comprendre cela dans son contexte, et le contexte est explique maintenant le verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Voilà un exemple de la manière qu'il faut prier pour tous les hommes sans distinction. Il faut se demander, se poser la question, qui étaient les rois à l'époque où Paul écrit ici de prier pour ces rois et ceux qui sont élevés en dignité? César, Néron, c'était des hommes, des rois qui dominaient, qui étaient des dictateurs, des hommes méchants et qui gardaient sous leur bras de fer les gens en esclavage. Mais Paul dit que il faut pas ignorer de prier pour de tels hommes. C'est-à-dire, on imagine parfois que non, c'est la politique, donc il faut pas que nous prions pour ceux qui sont dans des positions d'autorité. Pourquoi pas? Parce qu'il y a parmi ceux-là même des élus de Dieu aussi. Quand Paul était emmené à Rome et était dans une maison en attendant de se présenter devant César, il y avait beaucoup de gens que le Seigneur a emmenés pour l'écouter annoncer l'évangile, et parmi ceux-là même la famille de César. Il écrit ça dans une de ses épîtres, que même les familles de César envoie leur salutation aux églises. Donc c'est évident que Dieu a même ses élus parmi ces hommes qui sont élevés en dignité. Mais qui élève ces hommes en dignité si ce n'est pas Dieu lui-même? Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 13. Les plus méchants, qui qu'ils soient, ont ces positions d'autorité pour une seule raison. C'est parce que Dieu lui-même les a suscités. Romains 13 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Alors, comprenons le contexte quand c'était écrit ici de faire des actions de grâce pour tous les hommes. Nous ne devons pas distinguer dans nos prières entre certaines personnes et d'autres par leur race ou bien leur langue, leur culture, ou dire « Ah non, je ne peux jamais prier pour celui-là à cause de son arrière-plan ethnique, non. » C'est écrit ici, nous prions pour ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous savez, Dieu peut, par ses autorités, nous protéger et nous donner les libertés dont nous jouissons maintenant et de pouvoir l'adorer selon la conscience qu'il nous a donnée par la grâce de l'Esprit. Et il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Et voilà la phrase, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comprenons ça dans son contexte. Il veut que tous les hommes sans distinction, des pécheurs de toutes sortes de races et de positions dans la vie, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc, pendant l'éternité, ceux qui seront autour du trône de la grâce de Dieu, chantant comme nous avons lu tout à l'heure, digne est l'agneau qui a été immolé, ça va être une foule, une multitude de pécheurs rachetés par Christ et son sang de divers pays et cultures, mais sauvés par la grâce de Dieu. Ça, c'est la seule manière de comprendre cela. Parce qu'imaginons, pour un moment, si verset 4 nous disait que c'était le désir de Dieu de sauver tous les individus, ça veut dire tous les hommes, sans exception, alors, si telle est la volonté de Dieu, pourtant tous les hommes, sans exception, ne sont pas sauvés, qu'est-ce que cela signifie alors concernant sa volonté? Ça veut dire que la volonté de Dieu est sans effet en ce qui concerne le salut des pécheurs, et cela ne pouvait jamais être. Ou bien imaginons, comme certains disent, que Christ est venu verser son sang pour des pécheurs du monde entier, sans exception, tous les individus, que Christ a payé leurs dettes. Pourtant, il y en a qui sont envoyés quand même à l'enfer. Qu'est-ce que cela signifie au sujet de la mort de Christ? On doit dire que la mort de Christ est sans effet en ce qui concerne le salut des pécheurs alors. Et je dirais, quel blasphème! Et imaginons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce de Dieu, est en œuvre pour chercher à convertir des pécheurs, mais en fin de compte, ces pécheurs-là ne sont pas convertis. Qu'est-ce que cela dit alors au sujet de l'Esprit de Dieu? Cela signifie qu'il est sans pouvoir, sans puissance de pouvoir convertir le pécheur et que maintenant la volonté du pécheur est plus forte que la volonté de Dieu. Quel blasphème! Vous ne voyez pas comment ceux qui raisonnent comme ça sont ignorants du salut de Dieu par la grâce de Dieu? En fait, ce qu'on doit conclure avec un tel raisonnement, c'est que le pouvoir reste avec l'homme d'être sauvé ou pas. Et cela, nous ne voyons jamais enseigné dans les Écritures. C'est le contraire. Alors nous devons comprendre, nous ne sommes pas en train d'arracher ces versets de la Bible pour dire, ah, on ne peut pas prêcher sur ça. Je veux que nous prêchions clairement sur ce que signifie que Jésus-Christ est le sauveur du monde. et prêcher Jean 3, 16. Les gens ont pris ce verset pour enseigner n'importe quoi là-dessus. Et je dois dire que Jean 3, 16, aucun de ces versets ne soutient la doctrine de ces prédicateurs qui veulent nous faire croire que le salut est pour tous les individus du monde entier. Non. Il est le sauveur du monde dans le sens qu'il a des pécheurs du monde entier. Et que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes, sans distinction, voilà comment il faut toujours interpréter cela, sans distinction de race ou de langue ou de tribu, que tous les hommes, des pécheurs de partout les hommes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi le verset 5 de 1 Timothée 2 nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Encore dans ce sens, quelle que soit l'ethnie des hommes, il n'y a qu'un seul médiateur que je prêche ici aux États-Unis, que je me déplace pour prêcher en Afrique, en France, que vous prêchez là où vous êtes. Il n'y a pas de message. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu souverain, le Dieu qui exerce sa volonté comme il veut et qui sauve selon sa grâce, purement et simplement. Un seul Dieu et aussi un seul médiateur, c'est le Fils de Dieu. C'est lui que le Père a oint depuis l'éternité, à qui il a donné ce peuple venir sauver par sa vie parfaite et par sa mort en sacrifice pour cela. Mais un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les hommes dans le sens ethnique. Et c'est écrit Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà encore, tous comment? Tous sans distinction. Et non pas sans exception. Nous avons l'exemple des brigands sur la croix. Il y en avait deux, chaque côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Christ ne s'est adressé pas à un de ces deux. Il s'est adressé uniquement à un de ces deux. Et s'est révélé en lui le point que celui-là a demandé au Seigneur d'avoir miséricorde et de se souvenir de lui lorsqu'il viendrait dans son royaume. C'était vraiment une œuvre de l'Esprit d'ouvrir son cœur pour qu'il regarde le Seigneur Jésus qui était en forme d'un homme mourant. Pourtant, il reconnaissait que c'était le roi des rois et le sauveur qui devait donner sa vie pour lui. Et c'est pourquoi Christ lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà, le paradis, c'est d'être avec Christ, c'est d'être racheté par lui. Et Christ lui-même a dit cela de tous ceux que le Père lui a donné, il ne devait rien perdre. Jean 6, et le verset 39, « Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Alors, revenant dans notre texte ici, dans Jean chapitre 4, vous pouvez comprendre maintenant pourquoi les Samaritains ont utilisé cette expression concernant Christ, qu'il est vraiment le sauveur du monde. Rappelons-nous la manière que la femme samaritaine avait commencé son entretien avec le Seigneur en disant dans le verset 20, parce que chaque culture a ses traditions, alors dans le verset 20, elle disait au Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Donc voilà une distinction qu'elle faisait selon leur tradition. Mais notez la réponse du Christ, Jean 4, 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Il n'y aura pas de distinction, différence de lieu. Et il a même dit cela dans le verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Et je dois dire ça à ceux qui prêchent que Christ est venu donner sa vie pour tous les hommes du monde, sans exception, tous les individus du monde. On doit leur dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ceux qui raisonnent comme ça sont encore dans l'ignorance. Nous adorons ce que nous connaissons. Et il dit, car le salut vient des Juifs. Notez bien ce que Christ est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que le salut est pour les Juifs uniquement, non. Mais le salut vient des Juifs. Cela veut dire, dans le dessein éternel de Dieu, il a choisi de faire venir son Fils, le Saint Jésus-Christ, de ce petit pays, cette race de Juifs. Christ devait être le fils de David. Et c'était le plan de Dieu, bien vrai, de faire venir son fils de cette race. Mais on ne devait pas conclure alors que le salut était uniquement pour cette race. Voilà ce que Christ dit dans le verset 23. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand il dit les vrais adorateurs, il est en train de déjà voir cette femme samaritaine parmi ses autres adorateurs et ses autres samaritains que le monde ignorait, que maintenant Christ va attirer à lui-même pour manifester que c'était pour de tels adorateurs, ceux qui n'étaient même pas des Juifs, mais néanmoins appartenant à Christ et pour qui Christ devait donner sa vie. Et cela devient encore plus évident dans la partie que nous avons dans le verset 43 à 54 que nous devons regarder la prochaine fois parce que le temps passe. Mais ça parle là d'un homme, un officier du roi. Donc, on peut dire un Romain. Donc, dans le même chapitre, nous avons ici des Samaritains qui ont été manifestés comme étant ceux pour qui Christ est venu, et même ici un officier du roi. Encore un Romain, quelqu'un qui n'était pas un Juif. Un de ceux-là que les Juifs traitaient comme ennemis, pourtant, c'était pour lui que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Et ceux-là sont les vrais adorateurs qui adorent le Père, noté en esprit et en vérité. Pas selon des traditions, des races, mais en esprit, par l'esprit de la grâce de Dieu. Même en vérité, c'est la manière de comprendre cela. Christ est la vérité. Où l'Esprit de Dieu œuvre, il révèle le Seigneur Jésus-Christ et dit car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors ça c'est le résultat que nous voyons ici dans notre texte, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 39. À 49, pourquoi ces Samaritains sont venus chercher Christ et l'implorer de rester avec eux pour plusieurs jours, et Christ s'est resté, il est resté parmi eux, c'est parce que c'était l'Esprit de Dieu déjà à l'œuvre, en train d'attirer à Christ ceux-ci pour qui il est venu dans le monde. Et c'est pourquoi c'est écrit dans verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il y a cette confession que l'Esprit de Dieu rend et donne à chaque pécheur en qui l'Esprit œuvre, c'est de confesser ce qu'ils sont et de reconnaître que aucun péché ne peut empêcher le Seigneur Jésus de faire son œuvre. Il est venu dans le monde pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et voilà un exemple que nous avons ici. Ce n'était pas la déclaration de la femme qui était l'instrument pour la conversion de ces personnes, mais Dieu s'est servi de cette déclaration de la femme pour attirer ces hommes à Christ. Et dans le verset 42, nous voyons la raison. Ils ont dit, ils disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Quand je demande aux gens de me rendre leur témoignage de la manière que Dieu a commencé son œuvre de grâce dans leur cœur, j'écoute attentivement pour voir si ils vont baser ça sur une profession humaine, c'est-à-dire basée sur les dires des hommes, parce qu'il y a beaucoup comme ça, quand on le demande, ils disent non, mais je crois ce que mon pasteur me dit, et je crois le pasteur, donc je crois ce qu'il dit. Non, ça ce n'est pas une conversion. Voilà une conversion, ce que ces hommes disaient à la femme. Nous, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Verset 42. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Entendre comment? C'est-à-dire, le cœur ouvert, c'est Christ lui-même qui était en œuvre pour se révéler en eux. Et donc, cette fois-là était le résultat. C'est pourquoi je dis que Christ aura chacun pour qui il est venu dans le monde. Il ne peut jamais faire échec en ce qui concerne le salut des pécheurs. Et c'est pourquoi ceux-là ont pu dire, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je remercie le Seigneur que c'est ainsi, parce que je ne suis pas un juif. À ce que je sache, je n'ai pas le sang juif en moi. Je suis des descendants européens. Je sais que nous venons tous d'Adam, c'est vrai, mais étant un Américain maintenant, mes arrière-parents sont immigrés ici aux États-Unis, et donc je suis né maintenant Américain. Mais heureusement que le salut n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour tous les hommes. Autrement, moi-même, je ne devais pas pouvoir espérer être sauvé, ni vous. Donc, quand la Bible dit qu'il est le sauveur du monde, Dieu merci, c'est pour des pécheurs de chaque pays et de chaque culture, de toute tribu, de toute langue que le Seigneur Jésus-Christ est venu et il a donné sa vie. Et il aura certainement chacun de ceux-là sans distinction. Il est le sauveur de ceux-là, n'importe où il se trouve dans le monde. Alors, que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre, et si nous sommes à lui qui nous donne véritablement cette joie,